pour le pit stop. Alors, on les incorpore à la discussion, se sont levés, entre autres pour nous. Lambert Drainville, Farnell Morissette, merci d'être là aujourd'hui.
Ben, c'est le fun d'être là en studio parce que moi, je vous aime assez pour venir en personne.
Lambert, ça va?
Moi, je vous aime pas assez pour faire toute l'autoroute 40 puis me lever à 3h le matin pour être là en studio. Je m'en excuse.
Sais-tu quoi? Excuse-toi pas. En plus, on est bien contents parce qu'avec les conditions dont on vient de parler, on te sait en sécurité, on te sait chez toi avec ton café. Puis en plus, t'es réveillé depuis 6h30, t'étais prêt pour nous. Merci hein, pour ça. Je sais pas qu'est-ce qui te tient allumé comme ça, réveillé, Lambert. C'est peut-être le départ de François Legault. Je sais que tu voulais le souligner, puis je pense que c'est une bonne chose à faire parce que même si on n'aime pas peut-être la personnalité politique, les décision politique, c'est quand même quelqu'un qui a mis corps et âme, toute son énergie dans les dernières années à essayer de gérer le Québec.
Ouais, exact. Je pense qu'on doit... On a le devoir. Puis c'était vraiment beau, bien honnêtement, à l'Assemblée nationale hier. C'est rare qu'on les voit, surtout au Salon bleu, Salon rouge, là, être aussi en hauteur, tous les parlementaires. J'ai publié quelques extraits sur mes médias sociaux. C'était vraiment touchant de les voir saluer l'engagement d'un de leurs collègues. Au-delà de la partisanerie, au-delà de la joute partisane, bien honnêtement, c'est un engagement qu'il fait auprès des Québécois. Depuis 1998, il a eu tous les postes de ministre les plus importants. Il a fondé son propre parti, l'a amené au pouvoir. C'est le premier depuis Robert Bourassa à avoir deux majorités consécutives. C'est quand même toute une feuille de route pour François Legault. On se rappellera du bon père de famille durant la pandémie. Bref, il aura été là dans les moments où les Québécois auront eu besoin de lui. Et il est très impopulaire présentement. Oui, ça a été, disons, une fin de parcours très difficile. Mais je pense que pour quiconque s'implique pendant aussi longtemps, autant d'années, on a le devoir de lui lever notre chapeau. Et j'étais très content de voir la façon dont ça a été fait par les autres parlementaires dans l'enceinte du peuple hier à l'Assemblée.
Les gars, j'aimerais ça quand même qu'on tire des conclusions de ça, puis j'espère que pour François Legault, ce sera le cas, malgré qu'on comprenne qu'il va pas se représenter puis il retournera pas en politique par la suite. Après, il pourrait nous surprendre, là. Mais c'est quoi les conclusions qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas refaire ou sur quoi on devrait allumer une lumière pour la suite des choses? C'est pas parce que c'est François Legault qu'on le fait. On le fait à chaque fois qu'un premier ministre va quitter puis qu'il y a une ère qui finit. Farnell, entre autres, est-ce quelque chose qui te vient en tête?
Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est en écoutant les hommages particulièrement qui venaient de son parti. C'est comment est-ce que le ou la prochaine chef va être capable de gérer ce parti-là. Je veux dire, moi, le nombre de personnes qui sont levées, puis après ça, on fait des toutes sortes de témoignages disant « Moi, je suis allé en politique parce que François Legault est venu me chercher. Moi, mon chef... »
C'est l'équipe Legault.
C'est ça. Le nom du parti, c'est Coalition Avenir Québec tiré équipe François Legault.
Exactement. Il a monté son parti comme une entreprise.
Oui. Alors, ça va être quoi la suite de ce... clairement, c'est le parti de François Legault. C'est le parti d'un homme où ça a été ça pendant très longtemps. Ça a été bâti de même dans la tête de plusieurs des élus encore hier. C'était ça. Qu'est-ce que ça va être comme parti sans François Legault? Est-ce que c'est même possible?
Simon Jean-Louis Barrette, ministre de la Justice, il pleurait.
Mais
oui,
tu sais,
il n'y a pas d'émotion dans le visage de
l'homme. On les regardait, puis tu avais l'impression qu'eux, ils étaient là. C'était tout. Oui, ils étaient peut-être bien des élus, là, mais ils étaient là pour servir François Legault, puis ils sont là grâce à François Legault. Puis je veux dire,
Jésus avec ses apôtres.
Ben, je veux pas faire tomber dans ce genre. Bon, on est quand même Pâques, ce serait pas mauvais. Mais c'est plus que, au-delà des éloges qui sont mérités, disons-le. Comment est-ce que tu assures ton avenir? Comment est-ce que tu assures l'avenir de ce que tu as bâti quand tu t'en vas? Ça, c'est toujours la question la plus importante de n'importe quel politicien. Et ce chapitre-là de l'histoire de François Legault n'est pas encore écrite. Et elle est à écrire. Et je pense qu'on n'a pas fini de raconter cette histoire-là encore. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le temps.
Lambert?
Ouais, ce sera pas évident. Puis tu sais, c'est quelque chose qui fait jaser depuis, ben honnêtement, les tout débuts de la CAQ. Je veux dire, même, je me rappelle d'avoir eu des discussions avec d'anciens collègues autour d'un verre de vin sur comme, tu sais, c'est son parti, c'est lui qui l'a mis au monde. C'est une coalition. C'était quand même assez audacieux de dire, ben on va mettre dans le même panier des anciens libéraux, des anciens péquistes, des anciens adéquistes. On va mettre de côté la question nationale quelques instants, puis je vais être la colle qui tient tout ça ensemble. Bien là, la colle est partie et elle n'est pas encore tout à fait partie, en fait. Là. On n'a pas encore de nouveau chef, mais les dernières semaines de course à la chefferie, disons, ont donné lieu à des envolées qui rendent la question qu'on se posait même avant qu'il parte sur comment ça va se passer quand il va quitter, puis comment est-ce que quelqu'un va être en mesure d'être encore une fois cette colle-là qui tient ces différentes franges ensemble, puis disons que les dernières semaines en rajoutent sur. Ben on a raison de se poser des questions parce que ce ne sera pas évident. Puis, on a vu Gilles Bélanger dire ben, si M. Drainville est élu, moi je quitte. On a vu plusieurs attaques cinglantes envoyées par M. Drainville qui n'a pas hésité à laisser tomber les gants de boxe. J'ai hâte de voir quelle va être la suite. Mais chose est certaine, je pense que M. Legault, en quittant avant l'élection, a tout le moins donné disons, les chances à ce qu'il reste quelque chose suivant octobre prochain, parce que, disons que ça pouvait pas, je pense que ça aurait été de mettre tout ce qu'il a bâti dans la balance que de rester en poste vu son énorme impopularité.
On va s'élever au-dessus du parti de la CAQ, au-dessus de François Legault puis de son départ. Il y a quand même des choses importantes à retenir pour la suite au Québec, puis ces choses-là sont primordiales. On a vu une grande désorganisation, on a vu une très mauvaise gestion des fonds publics, mais ça s'étire là, de partie en partie, de règne en règne. Il y a vraiment des infrastructures, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit le communautaire, on en parle dans un instant, tout ça, qui enseigne en ce moment de la gestion québécoise qui perdure depuis des décennies. Il y a un gros bloc hiérarchique qui semble extrêmement difficile à foutre la massue dedans, puis à se dire, hey, on repart à zéro brique par brique, mais on essaie de placer les gens au bon endroit, puis peut-être laisser plus de place aux soldats sur le terrain versus aux commandants en haut. Pour la suite des choses, parce que ce ne sera pas juste le départ de François Legault, ce sera aussi un changement de règne si on en suit les sondages actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite au Québec, Farnell?
Bon, soit au Québec qui continue à être une société libre, démocratique, où tout le monde peut y participer à sa façon. Je veux dire, moi,
ça
j'aime...
t'inquiète-tu? C'est rare qu'on va sortir ça en premier
oui,
point.
Oui, moi, c'est une inquiétude constante. Je veux dire, je suis pas en train d'en perdre du sommeil à tous les soirs. Là. Je suis pas en train de capoter non plus, mais je pense que la responsabilité de tous les citoyens en premier, c'est de rester vigilant pour s'assurer qu'on reste une société démocratique, une société où justement, tu parlais d'un... une hiérarchie avec un chef central. Moi, je pense que les meilleures personnes pour prendre leurs décisions, c'est eux-mêmes. Puis généralement, on est pas mal mieux servi quand on s'organise localement en premier puis que la structure monte plutôt de descendre du haut. Je crois qu'on a eu quand même, les années Legault ont été beaucoup marquées par une structure du haut qui descendait vers le bas. Je pense qu'un retour du balancier serait probablement sain. Juste question d'avoir un équilibre parce que, tu sais, c'est important d'avoir des structures hiérarchiques dans une société qui fonctionne aussi, mais...
Pour donner le pas,
pour qu'on soit tous alignés, pour avoir une cohésion sociale générale. Mais ça a été fait, je pense, beaucoup aux dépens de cette organisation locale-là, de ces pouvoirs décentralisés-là. Et un retour de ces contre-pouvoirs-là, je pense, serait une bonne chose
ce
pour ce qui s'en vient.
Ça va être un défi, par exemple, pour le prochain parti, énorme défi. Lambert?
Moi, je ne suis pas inquiet. Quand on se compare, on se console. Je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis je trouve ça rassurant de voir comment on se gouverne ici au Québec. Oui, il y a eu une centralisation du pouvoir, mais on a une liste longue comme le bras d'exemples où les contre-pouvoirs ont été en mesure d'avoir une... Puis l'opinion publique en général, ouais. D'avoir un impact direct sur comment le gouvernement justement se gouverne, qu'on pense au financement de l'éducation, qu'on pense à tout ce qui s'est passé avec les médecins, qu'on pense à tout ce qui s'est passé avec les syndicats, c'est quand même... je me réjouis, moi, de vivre dans une société où quand les gens parlent puis quand la population se mobilise, ben très souvent, le gouvernement écoute. C'est pas parfait, mais comme je l'ai souvent dit, je pense qu'on vit dans le plus parfait de tous les systèmes qui sont imparfaits.
J'espère vraiment que pour la suite des choses aussi, il y aura plus de transparence dans les communications. Je sais qu'on a géré des grosses crises et tout ça, mais moi, de ma remarque, peut-être pour la suite des choses au Québec, ça va être de dire les vraies choses aux Québécois le plus possible. Je comprends comme dans une enquête policière, des fois, il faut retenir de l'information pour pas gâcher nos plans puis qu'il y ait quelque chose qui arrive, genre du sable dans l'engrenage. Mais bien souvent, finalement, on a eu l'impression de se faire remplir. T'sais, l'expression est venue, entre autres, avec le troisième lien, avec des annonces où on nous promettait quelque chose, finalement, on revenait. Ouais, non, finalement, c'est pas tout à fait ça. Les arguments qui changeaient. Je pense que de se réaligner puis d'être très transparent, les Québécois sont capables de comprendre des revirements de situation quand on explique la situation. Faut toujours prendre, puis je pense qu'en radio, on le fait bien, mais moi, ça a été mon mantra toute ma vie. Je veux prendre les auditeurs pour des gens intelligents parce que je les considère intelligents. Tout le monde a une intelligence différente. Fait que je prendrai pas des sous-dossiers, des sous-commentaires, des sous-sujets, même si on me dit « Ouais, non, c'est pas très adapté à ton public. » Non, non, ils sont capables de suivre. Tu sais, les auditeurs, comme je pense les électeurs, quand ils élisent quelqu'un ou qu'ils font confiance à quelqu'un, ils s'attendent à ce que ça vaille la peine. Fait que quand on fait confiance à quelqu'un, on écoute encore plus, on est capable d'ingérer de l'information difficile.
J'aimerais ça vous entendre autant Farnell Lambert que les auditeurs au 88-971-1021. Une chose qui retenait l'attention hier, c'est le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon à la suite pour souligner le départ de François Legault. Lambert, j'imagine que tu l'as entendu.
Je
vais faire écouter l'extrait aux auditeurs, puis par la suite, on va pouvoir réagir à savoir est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a manqué de respect ou non envers le travail de François Legault.
François Legault a été péquiste. Il a été caquiste, mais je pense qu'il n'a jamais été militant libéral, ni du PLC, ni du PLQ. C'est un bleu et le hasard ce matin fait en sorte qu'il y avait un vote sur la laïcité. Il y avait 76 votes pour et c'était le vote des bleus. Donc, je lui avais promis une question. Je lui pose la question, mais c'est une question pour laquelle il y aura une réponse peut-être un jour, mais... Je repose ma question. Que retient-il de sa tentative de faire des demandes dans le Canada? C'est une question qui est fondamentale pour la suite. Je vous pose la question, puis un jour, peut-être aussi, on pourra avoir une bière ensemble. Mais je continue d'espérer.
Est-ce que c'était le bon moment de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon de lancer cette question-là?
Moi, je pense. Excuse-moi, c'est Farnell qui répond.
Ben, tu vas-y, aller, non, c'est beau, Lambert, vas-y.
Ben, en fait, c'est que, tu sais, moi, je l'ai écouté au complet, là, l'hommage hier, et ben honnêtement, c'est une tempête dans un verre d'eau. Là. Si tu écoutes sa prise de parole au complet, là, il commence d'ailleurs d'une façon très émotive, en saluant la prise de parole de Simon-Jolin Barrette, qui était lui-même extrêmement émotif. Moi, je pense qu'il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau. Là. Sur 10 minutes de prise de parole, là, il a envoyé une petite pointe. Est-ce que c'était nécessaire? Peut-être pas. Mais hier, c'était un hommage qui était bien senti de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et le premier ministre, on n'a qu'à regarder l'accolade qu'il lui a rendue à la fin de cette prise de parole-là, semblait penser la même chose.
Moi, je pense pas que la flèche était nécessairement envers François Legault, ce qui me rend un peu pas inconfortable, je trouve un peu dommage. C'est un bris d'une trêve. Les hommages du genre sont pas supposés être des messages partisans. Puis c'était un message partisan. Et je veux dire, oui, bon, je suis d'accord, là, l'énorme majorité du discours n'était pas ce genre-là, mais pas simplement on savait c'était quoi le segment qui allait être repris par les nouvelles, savait c'est quoi qui allait faire parler. Et il a utilisé cette tribune-là pour faire un argument, pour envoyer un coup partisan et envers la CAQ et envers le Parti libéral. Je trouve ça que c'est fair game, là, mais ça manquait peut-être un peu de décorum.
Il y a des auditeurs qui disent que même lui, Paul Saint-Pierre Plamondon, semblait pas à l'aise de poser
ben c'est
sa
ça.
Question.
La façon qu'il posait la question, tu réalises qu'en le disant, il réalise lui-même que ouais, c'était peut-être pas la meilleure.
Peut-être hésité
pas le bon moment.
Mais ça crée un malaise, là, veut pas. Ben oui. On le ressent, le malaise, même sans l'image, juste avec le son, les chuchotements qui partent partout, même lui qui semble plus ou moins sûr de ce qui avance.
Mais c'est bien dit de la part de Farnell, qui c'était comme une éruption dans la trêve.
Ouais.
Une éruption non nécessaire dans la
trêve. S'en serait passé. Ouais. On s'en serait certainement passé. Maintenant, je pense qu'il faut relativiser aussi. Là, quand tu écoutes l'heure complète où tout le monde prend la parole, là, ça demeure quand même embryonnaire là, ou très, très, très minime là, dans tout ce qui a été dit hier. Mais je vais être d'accord avec vous autres que s'il avait pu passer par-dessus ce bout-là, On s'en serait tous passés.
Ça, ça donne l'impression du gars qui est toujours obligé d'avoir le dernier mot.
Ben, sais-tu quoi, sur Twitch, là, parce que là, le Twitch est ouvert, hein, c'est pas parce qu'on est en vendredi férié que c'est pas ouvert. Twitch.tv/BLVD/FM, les auditeurs, c'est ça qu'ils disent. Ça parle beaucoup de Paul Saint-Pierre Plamondon. Pour eux, ce qu'ils retiennent, c'est ce que ça donne comme impression sur le chef du Parti québécois. Quelqu'un qui dit, voyons, c'est un bel hommage, mais ça démontre à quel point il peut être maladroit. Quelqu'un d'autre qui dit, hey, il est bon pour se mettre les pieds dans les plats. C'est à surveiller. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins élogieux. Même, vous comprenez la tendance actuelle, même par texto au 88-971-1021. Puis, les gars, il y a un sujet aussi que vous vouliez vraiment aborder. Puis, je trouve ça le fun de voir de concert d'accord avec le fait que la grève dans le communautaire est hyper importante en ce moment, mais c'était une trame de fond, je veux dire, comme ça, cette semaine. On savait que ça existait, on a abordé les choses, sauf que ça fait pas partie des enjeux extrêmement majeurs quand on avait le Moyen-Orient, la politique québécoise à traiter, tout ça. C'est souvent le manque de temps dans les médias, mais on a accordé beaucoup de temps, malgré tout, à cette grève communautaire-là, parce que, vous le dites vous-même, c'est hyper important, beaucoup plus qu'on peut penser.
Ben, moi, je suis pas sûr qu'on y accorde assez de temps. Je veux dire, ça, c'est un malaise constant qui existe partout, puis je comprends que tout sont des contraintes différentes. Mais je veux dire, pendant que François Legault recevait les éloges, encore une fois mérités, de tout le monde s'aimait, tout le monde se donnait des câlins à l'Assemblée nationale, il y avait 10 000 personnes à l'extérieur de l'Assemblée nationale. J'étais avec eux, j'ai passé la journée là. Il y a des gens qui sont venus de Sept-Îles, de Gaspé, de partout. Ils ont fait des journées en autobus pour s'entasser quatre dans des petits motels à quelque part, parce qu'on s'entend qu'à 19$ de l'heure, t'es pas au Hilton.
Puis les caméras étaient pas là.
Puis je veux dire, je regardais ce matin.
T'en as vu aucune?
Il y avait des caméras, oui, mais je regardais les manchettes ce matin. Oui. Là, je veux dire, je regardais la presse, je regardais Radio-Canada.
Puis c'est pas une grosse journée de nouvelles.
Puis c'est pas un gros.
Fait que ça aurait pu avoir de la place.
Nulle part dans les manchettes, on parle de cette réalité-là. Puis je trouve ça un peu dommage. Parce que, encore une fois, je comprends la réalité, là, mais faisons juste la juxtaposition. Okay? D'un côté, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, t'as les grandes éloges de la fin de la carrière politique de François Legault. Encore une fois, je remets pas ça en question. Mais pendant ce temps-là, t'as 10 000 personnes à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui hurlent en disant « on a besoin d'aide, on a besoin d'être entendu, ça va mal, le dernier refuge pour femmes à Sept-Îles est en train de fermer ». Je dis pas ça comme exemple.
Pour une cause qui est très difficile d'être contre la vertu. Là. On s'entend que le communautaire, là, on parle pas de « moi je tiens la couverte de mon bord », c'est pour tous et chacun.
Oui, alors imaginez-vous être justement quelqu'un là, qui a fait une journée de route dans un autobus en espérant que sa contribution à cette masse-là puisse se faire entendre, que t'es à 100 mètres du Salon Rouge et aujourd'hui, tu te lèves, puis c'est comme si t'avais rien fait. Toi, tu vis ta vie au complet, ta dévotion primaire, c'est d'essayer d'aider les gens qui sont dans le besoin, puis tu le fais pour des miettes et tu reçois... Rien.
Mais pourquoi on en parle aussi peu? Puis je prends une partie du blâme aussi. Là. J'aurais pu faire un dossier sur ça cette semaine. Je me suis concentré sur d'autres points de presse, sur d'autres dossiers. Pourquoi ça passe sous les radars?
Je sais pas.
Parce que c'est quand même 10 000 personnes.
Oui, puis je veux dire, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a 1800 organismes communautaires qui sont en grève. Ouais. Il n'y a pas un syndicat du communautaire. Là. C'est pas centralisé. Il n'y a pas un big boss à quelque part qui a dit « Hey, on déclenche une grève ». Il y a 1800 petites organisations souvent portées à bout de bras par des gens qui sont à toute fin pratique, des bénévoles qui vivent dans la précarité eux-mêmes, qui décident « Oui, on va participer à ce mouvement-là ».
Ben oui, puis on en parlait cette semaine avec Jean-François Fortin. Puis lui, il a travaillé au Patro, puis entre autres, des fois, pour payer ses employés parce qu'il n'y avait pas les budgets nécessaires pour tout le temps donner un salaire qui était adéquat selon lui, ben il offrait des paniers de denrées, là. Fait une aide à l'épicerie à la maison, parce que c'était effectivement les gens qui y travaillaient, même des gens qui étaient bénéficiaires de l'aide qu'ils donnaient aux autres. Et c'est rare aussi qu'on entend le monde communautaire crier, parce que souvent, ils sont bien trop occupés à gérer les problèmes du communautaire, puis à mettre toutes leurs heures là-dedans, puis à défoncer leurs heures là-dedans. Mais ils sont souvent les premiers coupés dans des enveloppes budgétaires gouvernementales parce qu'ils vont pas crier. Fait qu'ils vont, au sein même de leurs organisations, enseigner, en payer le prix, mais rarement ils vont avoir le temps d'aller crier. Hier, c'en était une grande manifestation. Lambert, c'est quoi ton observation de tout ça?
Bien, mon observation est un peu la même que Farnell au niveau de « je trouve ça un petit peu dommage ». Puis je pense que c'est... Tu sais, je pense que c'est... Moi, Farnell, puis plusieurs autres créateurs de contenu sur les médias sociaux, on est allé chercher une crowd puis une communauté de gens qui nous suivent. Puis,
C'est frappant la différence entre comment les médias sociaux et les médias institutionnels traitent la nouvelle. Là, je pense que Lambert, on le vit tous les deux. Excuse-moi, je ne veux pas te couper, là, mais c'est un exemple intéressant. Là. En effet, la façon que tu en parlais aussi, c'est super intéressant.
Ben oui, ben c'est ça. Ben Farnell a publié déjà plusieurs vidéos là-dessus. J'ai vu Alexandre Drolet qui en a fait aussi. Moi, j'ai une vidéo qui sort demain matin sur ce phénomène-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens se tournent vers les nouveaux médias versus les médias traditionnels, parce que je pense que parfois, on a cette capacité-là à parler d'enjeux qui touchent vraiment les gens. Le communautaire, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Rappelez-vous quand les médecins avaient décidé de se mobiliser, là, tu sais, les médecins, là, les regroupements de médecins, les deux syndicats principaux.
Un blackout médiatique pendant quasiment un mois, là, cette affaire-là.
Ça loue le Centre Bell, ça fait toute une séquence de communication, ça embauche des agences. Et qu'est-ce que tu veux? Le milieu communautaire n'a pas cette capacité-là institutionnelle de déployer autant de moyens, mais ils ont la force du nombre et on l'a bien vu. Et moi, mon message aujourd'hui, il est de dire que les instances gouvernementales ont souvent voient la gestion des finances publiques puis la gestion de notre société d'un point de vue strictement comptable. Et je pense que même quand on regarde ça d'un point de vue strictement comptable, le communautaire, là, c'est un des piliers de notre filet social dont on est donc fier ici au Québec. Là, on en parle souvent, notre filet social, c'est ce qu'on s'est bâti au fil du temps. Ben, le communautaire est un des trois piliers de ce filet social-là, au même titre que le réseau hospitalier et que le réseau des services sociaux. Alors, il faut en prendre soin. Et encore une fois, pour revenir sur l'aspect plus comptable, ces gens-là, là, si on ne prend pas soin des gens qui prennent soin des gens qui en ont le plus de besoin dans notre société, ils disparaîtront pas, ces gens-là. Ils vont se tourner vers le réseau public et ça va finir par nous coûter 2, 3, 4, 5 fois plus cher au bout de la route.
Probablement moins bien géré aussi, malheureusement, vu toute la lourdeur administrative.
Ben, le réseau est déjà engorgé, effectivement. Ouais. Je veux dire, c'est déjà engorgé. Là. Tu me dis que si eux autres arrêtent de nous aider, ça va en empiler, en rajouter encore plus. C'est des gens qui sont excessivement importants. Puis dans les moments de grande crise là, qu'on a vécu, là, pensons à la pandémie, les organismes communautaires font preuve, évidemment, ont une flexibilité que les réseaux publics n'ont pas, et de réagir rapidement, de s'adapter rapidement. On ne serait jamais passé à travers cette crise-là qu'a été la pandémie sans ces gens-là qui se sont dévoués avec la main sur le cœur. Alors, au-delà de... Tu sais, puis je veux quand même dire que le gouvernement n'est pas resté assis sur ses lauriers. Là. Quand le gouvernement de la CAQ est arrivé au pouvoir, il y a eu plus d'investissements dans le réseau communautaire qu'on l'avait jamais vu dans l'histoire récente du Québec. Mais malheureusement, le retard accumulé était tellement grand qu'au final, on a juste un peu rattrapé une partie du retard. Et là, c'est beaucoup moins glorieux dans les dernières années. Et donc, je pense qu'il y a un rattrapage à faire. Puis au-delà de plus d'argent, moi, je pense qu'il leur faut plus de prévisibilité. Il faut être en mesure de vous dire, ben non seulement on va vous donner plus d'argent, mais on va vous dire combien on va vous donner dans 2, 3, 4, 5 ans pour que ces organismes-là puissent bâtir des équipes qui sont stables.
C'est le nerf de la guerre. Pour connaître des gens qui travaillent très, très proche de moi, là, corps et âme à chaque jour, c'est le nerf de la guerre, ça, parce que souvent, il faut qu'ils fassent des renvois, qu'ils rembauchent après, parce que finalement, il y a une enveloppe budgétaire. Puis au-delà d'avoir des employés, bien, c'est aussi l'argent qu'ils vont réussir à donner aux bénéficiaires. Oui, on peut te promettre, d'autres, on ne peut pas te promettre, mais ça a des répercussions puis du stress aussi au sein de ces bénéficiaires-là, là, puis dans leur quotidien. Vous avez raison, les gars. Farnell, avant de te laisser partir, on a jasé avec Luc Laliberté tantôt. Luc Laliberté, qui est un analyste de politique américaine, puis on a parlé aussi de tout le conflit au Moyen-Orient, mais on a certainement parlé des États-Unis, OK? On a promis une chose, parce qu'on avait une question, puis on n'était pas capable d'y répondre. Peut-être que tu vas être la solution à cette question-là. Avec les suppositions de délits d'initiés du côté des États-Unis, soit des gens très proches de l'administration Trump ou des amis qui auraient eu peut-être écho, entre autres, de la guerre au Moyen-Orient, puis qui avaient investi de l'argent dans des fonds qui auraient pu leur rapporter. Mais ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il n'y a rien qui est prouvé encore. C'est simplement des suppositions, des rumeurs. On se posait la question, comment est-ce qu'on va réussir, puis qui on réussira à accuser là-dedans si ça s'avère vrai? Est-ce l'administration Trump? Est-ce l'homme en étant Donald Trump? Est-ce qu'on va être capable d'aller accuser aussi toutes les personnes qui seraient dans ce genre de stratagème-là? Comment ça pourrait se résulter?
T'sais, quand on parle, quand je parle qu'on doit toujours être vigilant pour la démocratie puis l'état de droit, là, je veux dire, je pense que ça, c'est un bon exemple de cette vigilance-là. Puis qu'est-ce qui arrive quand elle commence à s'effriter, quand la culture de démocratie puis d'état de droit dans un état commence à s'effriter aux États-Unis? Parce que l'organisme qui est chargé de faire enquête, de déposer des accusations contre des délits d'initiés aux États-Unis, c'est la Securities and Exchange Commission. La Securities and Exchange Commission, elle relève de l'autorité du président. Alors, s'il y a des gens proches du président qui ont accès à cette information-là de façon privilégiée, je veux dire, c'est comme demander à... Je veux dire, on a un bureau d'enquête indépendant pour la police au Québec, pour des très bonnes raisons. On peut pas mm-hmm. faire confiance à la police qui enquête sur elle-même. Ben, c'est comme demander à la Maison-Blanche d'enquêter sur elle-même. Est-ce qu'on peut avoir confiance à ça? Je commence à me poser la question très sincèrement, je ne suis pas certain. Et je veux dire, comment on s'en sort, c'est plate à dire, mais c'est de ne pas se retrouver dans une situation sociale où ce genre de pratique-là est possible. Puis la façon que tu fais ça, tu sais, c'est... On tient... notre état de droit, notre démocratie, elle tient à une entente sociale qui dépend du bon croyance et de la valeur qu'on y met tous. Et puis, quand il y a des gens qui commencent à se dire « Ah ouais, mais c'est mon bar, ça que c'est correct », on l'a plus. Et alors, je veux dire, comment est-ce qu'on s'en sort? C'est plate à dire, mais c'est pas comme si... On s'en sortira... Ben, je veux dire, c'est les États-Unis, là, on les regarde de l'extérieur. Ils ne vont pas s'en sortir par l'appareil gouvernemental. La seule façon qu'il leur reste pour en sortir maintenant... C'est un changement profond de culture démocratique.
Mais est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, aux prochaines élections, un gouvernement démocrate rentrer à Maison-Blanche, puis par la suite, là, il y a des enquêtes sur les anciens, ceux qui gouvernaient avant.
Possible. Alors, accusés dans le futur.
C'est légalement, c'est possible. Le problème, c'est ça, c'est que ça finit où?
Ouais.
C'est que, je veux dire, encore une fois, une espèce d'entente de gentilhomme, là, à dire on va respecter les règles du jeu, puis il y a des choses qu'on fera pas, même si on a potentiellement légalement la possibilité de faire. Mais mettons, là, le prochain président rentre à la Maison-Blanche, puis première chose qu'il fait, il dépose des accusations contre Donald Trump. Bien là, on vient de créer un précédent où chaque président sortant va peut-être se faire poursuivre, accusé par le président prochain. Puis là, on va commencer à avoir des campagnes électorales. Je veux dire, Donald Trump avait commencé avec « lock her up », mais on va avoir des campagnes électorales de gens qui promettent de mettre leur adversaire en prison. Puis ça finit où, cette réalité-là? C'est une pente glissante,
cette
je comprends.
Réalité-là.
Mais c'est une réalité dans laquelle les États-Unis commencent à embarquer présentement, à avoir ce genre de discussion.
On pourrait voir un épisode de Black Mirror, on pourrait voir un épisode de fin des séries avec ce genre de thématique-là. Malheureusement, c'est effectivement notre réalité, puis je trouve ça intéressant de l'avoir exploré ce matin avec toi.
Ça dépend, je pense, d'une culture politique de retenue de la part des gens qui ont le pouvoir et surtout de retenue de la part des gens qui appuient ceux qui ont présentement le pouvoir. Puis présentement, cette culture de retenue-là, elle s'effrite à vue d'œil.
Tout est dans tout. Hein? Même si c'est pas notre pays, les États-Unis, ben, ça a des répercussions sur nous et le contraire. Puis tout est dans tout au niveau politique avec Lambert Drainville. Puis un juriste comme Farnell Morissette, ben, il y a bien des sujets où ils se rejoignent et d'autres, ben, il y a des technicalités qui diffèrent. Merci beaucoup, Lambert, d'avoir été là ce matin avec nous.
Merci de l'invitation. Toujours un plaisir. Je salue Farnell. On s'en parle bientôt, mon gars.
On s'en parle bientôt, oui.
On te laisse à ton café. Je sais pas, t'es rendu au combienième, Lambert, mais profites-en bien. Les deux pieds sur le pouf en sécurité à la maison. Et on peut le suivre sur ses réseaux sociaux en passant à Lambert qui fait de superbes capsules. Demain, il y en a une qui sort sur cette grève dans le communautaire. Suivez ça, Lambert Drainville, sur les réseaux sociaux. Et avec Lambert, c'est ça, Lambert? Ton
exact,
podcast, oui, parfait.
Lambert avec deux T, vous allez trouver facilement.
Et voilà. Farnell Morissette, on suit aussi sur les réseaux sociaux, entre autres Instagram, des capsules abondantes avec plein d'informations sur plein de sujets différents. Puis on rappelle que tu es allé créer Soso Solidarité hier pour le communautaire, puis finalement, on t'a pas entendu. Fait que si vous avez manqué la discussion de Farnell et Lambert sur l'Ozone dans les dernières minutes, ça va être disponible sur le blvd.fm. Bon congé Pascal, les gars.
Merci.
L'actualité ne prend pas de congé.
Boulevard 102.1.
Les samedis et dimanches matin à Boulevard, on vous joue la musique